Mesdames, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, je suis Gérald Viaud, président du comité national Conquilicole et du comité régional Conquilicole du Poitou-Charentes et ostréiculteur en Charente-Maritime depuis bientôt 50 ans. Je vous remercie pour l'organisation de ce colloque et l'intérêt que vous portez à notre filière ostréicole qui est le pilier de la conquiliculture, qui comprend les huîtres, les moules, les vénériculture et d'autres coquillages. Le CNC est l'échelon national de l'organisation professionnelle de la conquiliculture qui, sous diverses formes, existe depuis plus d'un siècle. Aujourd'hui, le CNC travaille en coordination avec 7 comités régionaux, mais également avec les acteurs du commerce et de la transformation, ce qui lui donne son caractère interprofessionnel. Je vais vous présenter rapidement un état des lieux et des enjeux de la filière ostréicole. J'aborderai d'abord la question de savoir ce que représentent les huîtres avant de m'intéresser à ses consommateurs. Dans un second temps, je présenterai la filière, l'organisation de la production d'huîtres creuses et ses enjeux. Enfin, en conclusion, j'évoquerai les débats et les discussions qui animent aujourd'hui la profession. Mais tout d'abord et très rapidement, quelques mots. L'ostréiculture constitue le support d'un véritable tissu socio-économique. C'est un moteur de développement des territoires littoraux. Les principes de nos élevages peuvent sembler simples, faciles, mais la mise en pratique est une autre paire de manches et l'homme garde un rôle très important dans son environnement. L'entreprise qui élève et commercialise des huîtres aujourd'hui est moderne, innovante et d'intérêt général. Ce graphique me permet de traduire l'histoire de l'ostréiculture européenne autrement. La production européenne est en gris. La production ostréicole française contribue à 80% de la production européenne. Depuis les années 1990, la production française est marquée à la fois par l'influence de la variabilité du captage, mais aussi par des épisodes de mortalité importants. Depuis 2008, la production française et la production d'autres États membres est impactée par des mortalités massives. La France a perdu 40% de son tonnage annuel. La production mondiale d'huîtres repose à plus de 80% sur l'huître creuse Crassostrea gigas. Et d'une manière générale, l'huître, les coquillages, sauvages ou en élevage, ne se portent pas bien. Cette seconde carte illustre une vue globale de la distribution et de l'état des gisements ostréicoles dans le monde. Comme vous pouvez le constater, la situation n'est pas très bonne et celle-ci s'aggrave. Les coquillages et les gisements coquilliers sont une composante clé des écosystèmes et ils rendent bien des services, que ce soit culturels, patrimoniaux, à valeur économique non négligeable. L'huître creuse et les autres mollusques bivalves vivants sont uniques et même leur place dans le règne animal est singulière. Leur évolution, leur adaptation, la stratégie de reproduction, tout ça c'est particulier. L'huître est magique, elle garde encore beaucoup de secrets. Nous connaissons les huîtres parce que nous les consommons. Il s'agit de denrées alimentaires sans pareil, qui offrent des bienfaits nutritionnels et des bienfaits pour la santé des populations encore sous-estimées. L'huître, comme d'autres sources côtières, a un potentiel certain pour répondre aux besoins alimentaires des populations d'aujourd'hui et de demain. L'huître, c'est aussi les territoires et les savoir-faire des femmes et des hommes. Il faut de la place et du temps pour élever les coquillages. Le mariage des huîtres et leur terroir offre une palette de saveurs et de sensations incroyables. L'huître fait partie de notre patrimoine, patrimoine culinaire mais aussi culturel. L'huître est emblématique. L'histoire de l'ostréiculture en France, c'est aussi celle de l'observation et de la connaissance des milieux estuariens et côtiers. C'est un niveau d'exigence élevé en matière de gestion de l'eau et d'aménagement des territoires. L'huître et l'ostréiculture animent la vie des territoires. L'ostréiculture se fait aussi le reflet des enjeux climatiques à moyen et long terme. Nos coquillages sont les véritables sentinelles du milieu marin. L'huître, c'est aussi un coquillage qui se commercialise et se consomme principalement à l'état vivant. Un produit plus qu'ultra frais qui ne peut laisser indifférent. On déteste ou on adore. Je préfère dire qu'on adore, bien évidemment. Ces consommateurs en gardent l'image d'un produit naturel et authentique. Une étude récente en lien avec la perception des consommateurs dans le contexte des mortalités a montré qu'il peut exister 3 groupes de mangeurs d'huîtres. La majorité d'entre eux ne consomment les huîtres qu'au moment des fêtes de fin d'année, période où plus de 65% du tonnage annuel est écoulé. Ils connaissent très peu l'huître, mais tradition oblige. Les opportunistes, qui aime les huîtres pour le moment convivial qu'elle offre à partager. Ils se lancent et découvrent les huîtres. Et puis enfin, les vrais amateurs connaissent les huîtres et s'y intéressent. Enfin, la récolte, l'expédition et la remise aux consommateurs, il ne s'écoule que quelques jours. La première mise sur le marché pour la consommation humaine s'effectue obligatoirement par un centre d'expédition agréé et contrôlé par les services de l'État. Il y a 3 circuits de distribution avec peu d'intermédiaires, les poissonniers, les restaurateurs et la GMS. La vente directe de coquillages tient une place importante. Enfin, il faut rappeler que le premier marché européen, si ce n'est pas mondial pour la consommation d'huîtres vivantes, est la France. Quand notre ostréiculture connaît des difficultés, je parle de notre ostréiculture nationale, les productions européennes augmentent, parfois, à partir d'origines de non-essaims, et viennent directement sur le marché français. L'ostréiculture représente 65% de la conchyliculture, dont voici quelques chiffres clés. C'est quand même 4700 concessionnaires. C'est plus de 3500 entreprises à caractère, pour bon nombre d'entre elles, caractère familial. Plus de 20 000 emplois. C'est aussi l'occupation de 16 000 hectares sur le domaine public maritime et plus de 4 000 hectares sur le domaine privé. C'est aujourd'hui 90 000 tonnes d'huîtres creuses plus 1 200 tonnes d'huîtres plates. La moitié des entreprises conchylicoles disposent de leurs propres moyens de captage en milieu naturel. 30 entreprises sont spécialisées dans les closeries, nurseries d'huîtres creuses. Face aux mortalités, les quantités de naissins captées et produits ont été décuplées. L'ostréiculture est exigeante. Elle impose des eaux en bon état sanitaire et écologique, et elle implique des réseaux de surveillance et de contrôle. Elle est au carrefour de nombreux domaines et de multiples schémas de gestion et de planification en mer et à terre. Le rôle de l'éleveur et de leurs représentants est essentiel sur le littoral pour la défense de la filière. Après l'épuisement des gisements par la pêche au début du siècle dernier, le captage des huîtres en milieu naturel a permis le démarrage de l'ostréiculture. Les pratiques traditionnelles ont évolué et elles évoluent toujours, mais notre savoir empirique demeure. Nous élevons, notre élevage se fait aussi bien sur des surfaces à plat, en surélevé ou en culture suspendue. Nous affinons et finissons nos produits pour en tirer les meilleures qualités organoleptiques et obtenir une forme harmonieuse de nos joyaux de la mer. De nos produits se fait aussi par des démarches spécifiques. La mise en avant de nos produits se fait aussi par des démarches spécifiques à nos territoires, nos pratiques et nos produits. Enfin, le secteur évolue du fait des facteurs où les conditions sont souvent de fois non maîtrisables. Les contraintes en mer et à terre forcent l'ostréiculture à garder une forte capacité d'adaptation. Comme ces huîtres, la filière ostréicole est aujourd'hui dans la tourmente, car elle est toujours sous l'influence de très forts taux de mortalité à l'élevage qui impactent directement sa rentabilité. Dans ce contexte, elle a la chance et la malchance de disposer de 2 modes d'approvisionnement, des élevages en huîtres creuses, le captage en milieu naturel et la reproduction en écloserie. Chance, car le captage et l'élevage impose de faire face à une forte variabilité naturelle et à des aléas importants comme la tempête ou les épizooties. Puis la malchance, car les évolutions sont très rapides. Le climat concurrentiel est empreint d'individualisme. L'organisation d'une réponse collective face à la crise devient très compliquée. Les conditions historiques pour l'approvisionnement de notre filière ostréicole expliquent la structure du secteur où il existe un grand nombre de petites entreprises, ce qui fait la diversité et la richesse de la filière. Dans ce contexte des mortalités, les points de vue des professionnels sur la situation et les besoins de la filière peuvent s'opposer. Et comme les présentations suivantes le montreront, il y a 2 grandes orientations apparentes. Il convient de ne pas oublier que la majorité des ostréiculteurs adaptent leurs pratiques et que 60% profitent de ces 2 modes d'approvisionnement. La reproduction en milieu contrôlé et à des fins commerciales est toute une histoire dans l'histoire ostréicole. Il est difficile d'installer telle activité commerciale face au captage naturel, même s'il est variable. La fourniture d'huîtres triploïdes a structuré ce segment en amont. De mémoire interprofessionnelle, elle a été introduite pour développer les ventes estivales. Et dans les principes, huîtres triploïdes apportaient une certaine stabilité. mais son utilisation n'a pas été suffisamment suivie, organisée, et elle s'est étendue aux écloseries aujourd'hui plus nombreuses qu'elles n'étaient au départ, et cette huile se commercialise désormais toute l'année. Les mortalités ont nécessairement modifié les approches traditionnelles des pratiques ostréicoles, et ce très rapidement. L'engorgement pour la production de naissins a de graves conséquences pour tout le monde. Aujourd'hui, le CNC porte des démarches pour mieux protéger ses ressources, mais aussi pour partager les développements possibles. En 2001 et 2003, un débat similaire à celui que nous tenons aujourd'hui a déjà eu lieu. Les mêmes questions se posent et l'interprofession s'est à nouveau saisie de la question de l'étiquetage de la nature des lots d'huile. Depuis janvier dernier, des consultations des représentants professionnels ont été conduites dans chaque bassin et des propositions ont été faites. Aujourd'hui, la situation est simple. Même s'il est nécessaire et important de travailler l'information des consommateurs, l'étiquetage des huiles triploïdes, des produits d'écloserie ou de ceux issus du captage en milieu naturel n'est pas praticable à court terme. En ce moment, il faut une réflexion de fond, à la fois générale, sur toutes les filières, mais aussi spécifique à l'ostréiculture. Concernant les consommateurs, nous devons mieux cerner les attentes, sans pour autant oublier qu'ils sont les mangeurs d'huîtres. Il est évident que nous devons mieux transmettre et entretenir les messages, les sensibilisant sur nos produits et nos activités. Nos discussions sont importantes aujourd'hui. Les messages que vont véhiculer l'huître ces prochaines semaines ou mois risquent d'être critiques. Quelle image restera-t-il de l'huître? Le débat de société nous a pris en otage. Allons-nous effrayer nos consommateurs? Quelle image restera-t-il de nos produits authentiques qui, par nature, offrent ce moment de convivialité, de plaisir, en réunissant les fins gourmets? Je vous remercie.